excède tout autre portefeuille qui existe, n'est-ce pas? Le Grand Canyon, les chutes du Niagara, l'océan Indien, entre autres. La planète Mars, l'univers tout entier. Ces biens immobiliers sont assez impressionnants, chers amis. Il est riche. Il est riche. Toute la création entière lui appartient. Tout a été fait par lui, dit la Bible ailleurs, et fait pour lui. Tout se tient grâce à lui. Le Seigneur Jésus-Christ existe depuis l'éternité, dans la gloire et la splendeur du ciel, auprès de son Père. Lui, il était riche, sans borne. Et pour vous, nous dit l'apôtre Paul dans ce verset, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche. Lui, la Bible nous dit qu'il habite une lumière inaccessible, il est devenu homme. Il s'est humilié. Il est venu en tant que serviteur, lui qui est le roi, au lieu d'être servi. Il s'est humilié, nous dit la Bible ailleurs, jusqu'à la croix. Là où il subissait l'opprobre et la moquerie des hommes. Mais pourquoi était-il généreux envers nous? Afin que, toujours ce même verset, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ça parle de sa grâce, de son œuvre à la croix, ce qu'il a accompli à la croix. Ou celui qui a toujours connu auprès de son Père une relation parfaite, il a pris sur lui le châtiment que nos péchés ont mérité. On apprendra plus là-dessus la semaine prochaine. Oui, sa pauvreté nous a enrichis. C'est le fondement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, là. La générosité de Dieu. Alors, est-ce que vous connaissez aujourd'hui Dieu ainsi? Vous, le Seigneur Jésus-Christ, comme étant le Seigneur qui est généreux. Ou est-ce que vous le connaissez encore simplement avec du respect et de la crainte, sans avoir compris que le Seigneur qui règne, c'est le Seigneur qui se donne généreusement pour nous. Mais cette phrase, donc, à propos de la générosité de Dieu envers nous, se trouve dans ces deux chapitres de la Bible qui exhortent des chrétiens à leur tour à être généreux. Généreux dans leur soutien de l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est ce point-là maintenant que nous allons aborder ensemble. L'apôtre, dans ces chapitres, encourage les Corinthiens, les chrétiens à l'église de Corinthe, à soutenir une collecte qu'il fait, Paul, pour le soutien des chrétiens de l'église mère à Jérusalem. L'église à Corinthe a été bien enthousiaste à participer à cette collecte. Verset 10, c'est un avis que je vous donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient. Puisque, dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Mais verset 11, Paul a le souci que cette bonne volonté de la part des Corinthiens soit menée à terme. Est-ce parce que l'enthousiasme initial de leur part a commencé à diminuer un tout petit peu? Menez-la, dit-il, verset 11, donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Et donc, tout au long de ces deux chapitres, Paul donne des instructions, des exhortations pour que cette collecte soit menée à bon terme chez les Corinthiens. Pour Paul, comme pour Jésus, l'argent des chrétiens n'est pas un tabou. Ils ne se retirent pas, pas derrière une couche spirituelle en disant « Oh Dieu, il pourvoira ». Pas besoin d'en parler de l'argent, il n'y a pas de place pareil pour l'argent. Non, ils cherchent à instruire des jeunes chrétiens sur comment ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc c'est bien que nous nous traitons le sujet de temps en temps au sein de l'Église. Non pas simplement « oui, Dieu pourvoira », mais comment est-ce que Dieu aimerait que nous participions à l'œuvre de Dieu de cette manière-ci? Nous avons besoin d'entendre cette instruction. Peut-être que vous avez peur qu'on va viser alors maintenant votre vie privée. Jusque-là dans l'Église, pour vous, c'était très sympa. Mais maintenant, tout d'un coup, on va commencer à entrer dans les détails spécifiques. Ouh, ça froisse un peu le dos. C'est quoi ce qui se passe? Mais donc, c'est important que nous écoutions donc ce que Paul dit, qu'ici, on va trouver des principes importants. Et c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'il aborde la question. Même si c'est vrai que nous ne sommes pas en train de mener une collecte nue pour des chrétiens appauvris à Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'on va vous demander de faire. Non, nous allons penser de soutenir l'œuvre de Dieu au sein d'une église locale. Parce que les besoins financiers de l'église locale entrent en vue lorsque nous abordons ces principes dans ces chapitres. C'est là d'abord, à l'église locale, que le chrétien a une responsabilité envers ses frères et sœurs dans l'église, envers les ouvriers de la parole de Dieu de l'église locale, envers les projets de mission collectivement que nous formons en tant qu'église, pour promouvoir l'évangile autour de nous, pour assister à l'œuvre missionnaire en dehors de la Belgique aussi. Donc, c'est important. Et voici quelques principes que vous voyez aussi sur le feuillet. On commence avec le premier principe de l'enthousiasme pour participer à cette œuvre de Dieu. Et ce principe se voit, je pense, juste dans les 5 premiers versets du chapitre 8, où Paul mentionne aux Corinthiens que les frères dans la Macédoine ont fait ce qu'eux, ils ont fait en ce qui concerne cette collecte. Verset 1, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Oui, Paul, il cherche à stimuler les chrétiens de Corinthe, n'est-ce pas? Une ville bien plus riche que les églises dans la Macédoine. Et il veut que les Corinthiens soient généreux à leur tour, à la lumière de ce qui a eu lieu dans ces églises plus pauvres dans la Macédoine. Et donc c'est un pasteur sage, l'apôtre Paul qui parle, car il savait bien le danger qu'il y avait à Corinthe de se vanter de ce qu'il possédait comme don spirituel. Et donc Paul leur exhorte d'un don spirituel qu'ils ne possèdent pas encore. Deux fois, il mentionne la grâce de donner, le charis. Donc, la grâce à donner, ce n'est pas que certains ont ce don. Grâce, une autre traduction pour charis, c'est un don. Et on peut se dire, ils avaient le don pour donner généreusement. Mais pas dans le sens où ils avaient ce don, mais moi, je n'ai pas ce don. Donc, moi, je ne dois pas donner généreusement. OK? Non, c'est que nous devons tous adopter cette manière de penser de nos dons financiers. C'est une grâce de participer à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est une chose souhaitée, un plaisir, une joie pour nous de participer aux besoins financiers des uns et des autres. verset 2, parle d'une joie débordante, n'est-ce pas? Verset 4, que c'était avec beaucoup d'insistance qu'ils voulaient participer. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils donnaient, non pas par contrainte, mais avec enthousiasme. Ils le faisaient car ils se sont donnés au Seigneur. Cela va de soi que si nous sommes enthousiastes pour le Seigneur, alors nous partagerons un enthousiasme pour son peuple, pour son œuvre, pour des projets qui demandent un soutien de la part de son peuple. Et donc, nous pouvons nous demander ce matin, sommes-nous des chrétiens plutôt de la Macédoine ou de Corinthe? Qu'est-ce que nous avons parmi nous? Réjouissons-nous de participer aux besoins de l'Église, des œuvres missionnaires que nous soutenons, ou sommes-nous toujours, avec beaucoup de difficultés, en train de donner juste un tout petit peu, parce que je sais que je dois le faire? Ça donne suite, donc, à un deuxième principe, le principe de l'amour. Verset 7, « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, dit-il au verset 8, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. » Donc, un pasteur, votre pasteur ici, ou des anciens de cette église, ne peuvent pas exiger ce qu'un chrétien donne. Ce n'est pas un ordre que nous donnons. Mais toutefois, donner fait preuve d'amour. Voici l'amour de Christ à l'œuvre dans nos vies. Suivre ce Christ, être un disciple de ce Christ, sans être stimulé par le modèle que Christ nous donne par sa générosité envers nous, ben c'est quelqu'un là qui n'a pas été captivé par l'amour de Christ. Comment être avare lorsque notre Dieu a été généreux envers nous? Un chrétien qui ne sait pas ce que c'est donner, c'est probablement quelqu'un qui ne sait pas encore ce que c'est de recevoir. Parce que nous avons un intérêt à amasser des richesses incertaines ici-bas que nous avons du mal à donner, lorsqu'en Christ nous avons reçu au-delà de toutes les richesses matérielles qu'on ne pourrait jamais imaginer. Non, c'est l'amour pour Dieu qui nous pousse donc à donner généreusement. Troisième principe, l'égalité. L'égalité. Deux fois, il y a égalité qui est mentionnée dans les versets 13 et 14. En effet, verset 13, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit ici de l'Ancien Testament, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Donc il y a ce principe d'égalité pour que les besoins primordiaux des frères et sœurs soient pourvus par un surplus d'autres frères et sœurs. Oui, dit Paul, pour le moment, dans les circonstances actuelles à Jérusalem, pour des raisons spécifiques qu'il y avait, il y avait des chrétiens qui n'ont pas de quoi manger ou boire, de quoi pour s'habiller, tellement la persécution des chrétiens à Jérusalem était rude. Et c'est tout à fait normal, dit Paul, que les circonstances des chrétiens qui ont un surplus par rapport à leurs besoins fondamentaux contribuent à ce besoin pressant des autres. Ainsi, il y a égalité. Égalité en ce qui concerne les besoins essentiels de l'homme. Paul ne suggère pas qu'il y a quelque chose d'immoral en ce que certains chrétiens ont un revenu plus augmenté que d'autres. Non, il ne reproche pas les Corinthiens pour leur richesse. Il ne propose pas un programme imposé de redistribution des biens. Ce n'est pas un agenda communiste ou socialiste dont on parle ici. Mais tout comme lors de l'Exode, lorsque Dieu avait pourvu pour le peuple d'Israël en envoyant de la manne et tous avaient ce qu'il leur fallait, même si certains avaient ramassé beaucoup et d'autres avaient ramassé moins, Paul pense que des chrétiens doivent se soucier que chacun ait ce qu'il leur faut pour survivre. Certains d'entre nous, chers frères et sœurs, ont un surplus. Et de gaspiller ce surplus sur des choses inutiles, non essentielles, lorsqu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas à manger, cela n'est pas juste, nous dit l'apôtre Paul. Mais ce principe d'égalité s'applique aussi à d'autres niveaux, chers amis. Si certains au sein d'une église contribuent plus au budget de l'Église, parce qu'ils ont plus de moyens, le principe d'égalité demande que tous donnent selon leurs moyens. Si quelqu'un a des moyens conséquents, bien sûr, il peut donner un montant conséquent, c'est normal. Mais celui qui a des moyens modestes peut également contribuer modestement. Même si je suis étudiant, même si je suis ado, même si je suis retraité, avec une pension très modeste. Si l'un doit faire des sacrifices afin de pourvoir aux besoins de l'Église, c'est inégal si l'autre ne l'en fait pas à son niveau à lui. Donc, à ce titre, laissez-moi, si vous le permettez, de vous rappeler quelques chiffres en ce qui concerne notre église locale. Vous savez, la dernière fois que j'ai prêché sur ce sujet, c'était en 2011. Et donc, j'ai retrouvé ce que j'avais dit en 2011. En 2011, en tant qu'église, et à cette époque, nous étions à peu près 75 adultes. Cela ne signifiait pas que chaque dimanche, on avait 75 adultes, mais ça signifiait qu'en moyenne, on était à peu près 75 adultes qui considéraient que cette église, c'était la leur et qui fréquentaient de manière régulière, si ce n'était pas toutes les semaines, l'église. Nous avons récolté en 2011 35 910 euros. Cela signifie, pour 75 adultes, 9,2 €, donc 20 cents par semaine, par adulte, en 2011. Nous venons, chers amis, d'avoir notre Assemblée Générale des membres pour l'année 2017. Et en 2017, merci Seigneur, nous avons pu récolter grosso modo 65 000 € en offrande. Mais l'Église a grandi depuis 2011. Et aujourd'hui, avec les deux cultes que nous comptons, sur l'annuel de l'Église, nous sommes à peu près à 150 adultes et non pas 75 adultes. De nouveau, pas que tous ces adultes soient au culte un dimanche ou un autre, mais il y a 150 adultes qui pensent que cette église, c'est la leur. Et donc, sur 150 adultes, le fait d'avoir donné 65 000 euros revient à 8,3 € par semaine. Donc, en fait, nous avons diminué un tout petit peu dans ce que nous donnons depuis l'année 2011. Le budget que nous avons fixé pour 2018, c'est à 84 000 euros, quelques cents de près. Et on nous a dit, nous avons une réserve. Donc, nous savons que peut-être c'est trop ambitieux pour l'Église d'aller de 65 à presque 85, 84 000 euros. Mais 80 000 euros en moyenne pour 150 adultes revient à 10 euros 76 par semaine par adulte. Alors, ce que j'aimerais demander là maintenant, c'est est-ce qu'un montant en moyenne, on parle d'une moyenne, on ne parle pas d'un standard pour tout le monde, est-ce qu'un montant trop élevé pour notre Église pour atteindre notre budget 2018? J'ose croire que la plupart d'entre nous n'ont pas juste un tout petit pourcentage qui peuvent donner 10 euros 76 par semaine. Mais la plupart d'entre nous, peu importe nos revenus, diraient qu'une telle somme reste relativement modeste par semaine. Il faut penser à l'abonnement de la télé, GSM, le loyer, les sorties, cinéma, restaurant, cadeaux et autres. Oui, nous avons des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, qui sont retraités avec une pension limitée, qui sont dans un couple où le conjoint n'est pas croyant et donc elles ne sont pas libres de faire ce qu'elles souhaitent avec leur argent, des mamans monoparentales pour qui les choses sont très serrées. Oui, bien sûr, nous avons toutes ces personnes. Mais vous venez régulièrement à l'Église et vous ne prenez pas part aux besoins de l'Église de manière sacrificielle. Alors, la parole nous dit que ça fait preuve d'un manque d'amour et un manque d'égalité pour ceux qui se donnent beaucoup plus afin de pouvoir avoir un budget relativement modeste. Principe suivant, chers amis. On y arrive à la fin presque. Ça va vite les deux derniers. La transparence. Si je fais mention de ces chiffres, si en tant qu'Église, nous publions sur le dans l'eau d'entrée, je ne sais pas comment, le tableau blanc, les chiffres, vous allez les trouver là, les chiffres pour l'année dernière, si nous faisons cela par rapport à nos entrées ou nos dépenses, c'est par un souci justement de transparence. Paul mentionne aux Corinthiens un frère choisi par des églises qui allait l'accompagner afin de transmettre son don à Jérusalem. Verset 20, on n'a pas le temps de voir tous ces versets. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc une église doit être transparente par rapport à son argent. Et pour que vous sachiez, nous le disons de temps en temps, le pasteur de l'Église ne sait strictement rien par rapport à l'argent. Je connais les chiffres au même moment que vous. C'est Wissam et Samuel dans notre Église qui gèrent les chiffres. Wissam qui est le trésorier, Samuel qui est l'un des anciens. Mais nous cherchons la transparence pour que nous ne puissions pas dire que nous avons joué avec l'argent de manière malsaine. Et le principe de la préparation. C'est-à-dire que nous devons réfléchir à l'avance par rapport à ce qu'on donne. Verset 5. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous y aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Ainsi, on verra que vous donnez de bon cœur et non avec regret. Donc si Paul envoie Tite à l'avance, c'est pour que l'Église à Corinthe soit prête lorsque Paul lui-même arrive. Ainsi, le don ne sera pas donné au dernier moment, avec du regret, par contrainte. Ah oui, j'y ai pas pensé, oui, ok. Non, il les pousse à être bien préparés, à avoir bien réfléchi, bien à l'avance. pour l'Église, je pense de manière générale, c'est plus difficile de donner avec joie, de banquer, si nous n'avons pas décidé le montant que nous allons donner à l'avance. C'est gênant, je pense, n'est-ce pas, de ne pas avoir préparé quelque chose. Puis au moment même, je vois ce que j'ai en poche. Et si j'ai en poche 20 euros ou 2 euros, au moment même, qu'est-ce que je vais donner? Ben, je vais probablement donner les 2 euros. Pourquoi? Parce que oui, j'aimerais bien donner les 20 euros, je sais que c'est une bonne chose. Mais bon, j'ai encore des frites à acheter là maintenant. Je dois appeler la famille à l'étranger, ok? Donc je dois chercher des fleurs pour mon épouse. Donc, si ce n'est pas préparé, je donne juste le peu que j'ai qui ne fait pas grave pour moi. Mais si au début de la semaine, au début du mois, je réfléchis, je mets un montant à part, ben, mes autres dépenses découlent de ce principe, de cette décision que j'ai prise à l'avance. Sachez que certaines personnes trouvent que c'est plus facile de donner par ordre permanent. D'autres personnes préfèrent donner via le tronc que nous avons ici au fond de la salle. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est d'avoir réfléchi à ce que nous donnons. Et donc, vous allez dire, bah, écoute, on a tous ces principes, mais vous ne m'avez toujours pas dit combien est-ce que je dois donner. Okay? Combien est-ce que je dois donner? Je veux savoir ça. Mais vous n'allez pas savoir de ma part, bien entendu. Mais la conclusion, c'est simplement que nous devons être généreux. Verset 6 du chapitre 9, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, Paul, il aurait pu dire, pu répéter le principe de la dîme. 10% de tout ce que je gagne. Mais il ne le mentionne pas. Nulle part dans le Nouveau Testament. Est-ce que la dîme est imposée comme elle l'est dans l'Ancien Testament? Pourquoi? Parce que la dîme, c'est le précurseur de quelque chose d'encore plus grandiose. La générosité. Ça donne le principe de la générosité au sein du peuple de Dieu. On peut être, vous savez, avare en donnant 10% de ce qu'on a. John Wesley, le grand méthodiste, centre de la conversion de beaucoup, beaucoup de personnes au XVIIIe siècle, il avait appris qu'il pouvait vivre, figurez-vous, à son époque, avec 28 livres sterling, c'est à peu près 35 euros l'équivalent, 28 livres sterling par an. Évidemment, c'était il y a longtemps, okay? Quand il était un jeune homme. Mais au lieu d'augmenter son niveau de vie quand il commençait à gagner plus, il retenait le même niveau. Et il pouvait donner donc de plus en plus de son argent à différents projets. Ça reste le cas. Ça peut, on pense à Billy Graham, qui lui a amassé énormément d'argent par son ministère. Mais lui aussi, on avait cité il n'y a pas longtemps, prenait la décision de recevoir un simple salaire et l'autre allait dans des fonds chrétiens pour pourvoir aux besoins de l'Église universelle. Est-ce que le Seigneur vous permettra de contribuer aux besoins de l'Église de Jésus-Christ, même plus large que cette Église locale, pour que la bénédiction découle pour un grand nombre de personnes et pour le royaume de Dieu? Donc il faut réfléchir, il faut être généreux, et puis donner ce que vous pouvez par amour, avec joie. Si pour vous donner 100 euros par mois à l'église locale, c'est de trop, alors pour le moment, pour vous, c'est de trop. Mais qu'en est-il si nous n'estimons pas que nous fassions partie des riches? Ben, je vous rappelle que les chrétiens de l'église de la Macédoine, de la pauvreté profonde, les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Ils ont donné, verset 3 du chapitre 8, même au-delà de leurs moyens. N'oublions pas que ne pas être riche n'empêche pas la générosité. L'indice de notre générosité, ce n'est pas le montant qu'on donne, mais c'est le montant qu'on ne donne pas. Et peut-être vous dites, bon, écoute, selon moi, pour le moment, c'est trop difficile. Verset 8 du chapitre 9. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance toute œuvre bonne. La source de ce genre de foi, nous disons, oui Seigneur, tu es à la hauteur, tu peux combler à mes besoins. Ce n'est pas une promesse de l'évangile de la prospérité, tout d'un coup, donne et vous allez encore recevoir plus d'argent. Non, mais Dieu pourvoira à nos besoins, nous pouvons lui faire confiance. Quelle est la source de cela? Verset 15, le dernier verset du chapitre 9, si tu veux bien. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Ça, c'est la source, sa générosité envers nous. Alors que cette générosité dont nous proclamons, dont nous chantons, cette croix, je pense que nous allons chanter, me sera toujours chère et les gloires et victoires pour moi. Bah, si nous croyons cela, alors cette richesse que nous avons reçue va traduire aussi dans notre générosité pour l'œuvre de Dieu. Prions ensemble. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ce don incomparable que tu nous avais donné en Jésus-Christ. Lui qui, riche qu'il était, qui est devenu pauvre pour nous. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Quelle joie de savoir que tu t'es donné pour nous. Et donne-nous, Seigneur, ce même esprit de générosité. Donne-nous d'avoir le même souci de vouloir partager avec joie à ton œuvre, à ton royaume, ici, au 21e siècle, ici en Belgique, à Bruxelles. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que nous avons, et nous te prions, Seigneur, que nous puissions progresser dans cette grâce qui est de donner pour les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.